on n'est pas important parce qu'on habite dans le coin de Montréal. C'est parce qu'on habite au fin fond de Montréal, parce qu'on est noir, parce qu'on est arabe, parce qu'on est un mauvais quartier. Ils sont pas occupés comme ça. Ils s'en foutent, là.
Pour moi, mon premier ennemi, c'est moi-même.
C'est pas parce que t'es algérien que tu vas forcément être bandit.
Tu sais, il doit avoir une raison pour cette douleur. Il doit avoir une issue, il doit avoir quelque chose.
Moi, je me mets de la pression pour réussir.
C'est pas tout Montréal qui a la même vision de la réussite.
C'est pas tout Montréal qui vit les mêmes problèmes, les mêmes galères.
C'est pas tout Montréal qui comprend ce que je vis, moi, ce qu'on vit.
Pas tout Montréal qui est Montréal.
C'est pas tout Montréal qui vit ça. C'est pas tout Montréal qui vit. Ouais, c'est pas tout Montréal qui vit.
Il y a quelques mois, avec Léla, la rédactrice en chef de La Converse, on a fait la connaissance de 5 jeunes. 5 jeunes qui ne s'étaient jamais rencontrés avant.
Bonjour, je suis Kester Milhomme, 18 ans.
Je m'appelle Samy, j'ai 16 ans.
Je m'appelle Adriana Madis-Antoine, j'ai 19 ans.
Moi, je m'appelle Sejida, j'ai 16 ans.
Je m'appelle Nessim, j'ai 16 ans.
Ils n'ont pas les mêmes origines, n'habitent pas le même quartier et vont dans des écoles différentes.
Mais bon, c'est pas grave.
Je vis à Saint-Michel et je vais à l'école Joseph-François Perrault.
J'ai grandi à Rivière-des-Péry, je vais à l'école Jean-Gros.
J'habite à Duvernay à Laval, puis je vais à l'école Georges-Vanier.
J'habite à Rivière-des-Prairies et j'ai commencé ma petite sœur agence de création de contenu et je suis esthéticienne dans un salon à Saint-Michel.
Ces jeunes, ils n'ont pas la même histoire, pas le même quotidien. Pourtant, ils ont accepté de se réunir durant plusieurs semaines et de se confier à notre micro dans les studios de La Converse pour parler de leurs différences et de leurs points communs, pour parler de ce qui les préoccupe, de ce qui les tient éveillés la nuit, pour parler de leur colère, leur frustration et leurs rêves. Mais aussi de ce qui leur apporte de l'espoir, de la lumière et de la joie. Ces échanges, au fil des semaines, ils sont devenus une bulle, un endroit suspendu dans le temps, où la magie du dialogue interculturel a pu opérer.
Banlieusard est fier de l'être. Les dialogues interculturels.
On est de différents backgrounds. Tu sais, il y en a qui viennent de Saint-Léonard, d'autres qui viennent, moi et Kester, on vient de Rivière. Donc, juste ça. Et en plus, nos origines maghrébines, nos origines noires, nos origines latines, personnellement. Tu sais, genre, on est tous différents, là. Puis ça, je pense que c'est ça, un dialogue. On fait que parler dans le podcast et discuter de différents sujets qui nous impactent de façon différente, mais très similaires en même temps.
Le cas d'une discussion, on va dire, c'est deux personnes, on va dire, qui viennent pas de la même culture, qui s'échangent, on va dire, des choses. Pour moi, c'est ça. Puis comme le dialogue interculturel, j'ai compris que comme c'est aussi des différences qui sont c'est des ressemblances aussi, ces différences, genre à la fin c'est des ressemblances comme.
Donc c'est des personnes qui partagent différentes cultures, qui partagent différentes perceptions, différents avis. Et qui vont s'asseoir autour d'une table ou qui vont tout simplement discuter de ces opinions-là, de ces différences, puis de ces ressemblances aussi.
Les dialogues interculturels, c'est genre les différences qui se ressemblent. On va dire genre, t'as fait une bêtise, puis les parents vont te taper. Mais la différence, c'est quand t'es haïtien, ta mère, elle va prendre une ceinture. On va prendre un exemple, je sais pas comment ça se passe chez les Maghrébins, mais on va dire par exemple les Maghrébins, il prend une sandale, une babouche, tu vois. C'est ça. C'est quand même des différences, mais qui se ressemblent.
Ça peut être le même problème, mais à grande échelle. Fait que ça, le fait que, okay, le racisme, lui, il le vit comme ça et moi, je le vis comme ça. Mais on le vit tous à la fin de la journée. Un des sujets qu'on a parlé, où on était le plus d'accord, c'est le racisme.
Moi, ce que je trouve, c'est que, en tant qu'être humain, on a plus de ressemblances que de différences.
au début, on n'avait pas le même mal social, genre. Mais comme à la fin, ça s'est transformé en ressemblance.
Mardi 23 janvier. Tout le monde est là à la converse. Quand on arrive, les jeunes nous attendent en silence. Et puis, peu à peu, les langues se délient. Une expression revient souvent dans leurs discussions. Le mal social. Lila leur demande ce que c'est, ce que ça signifie pour eux. Et alors qu'ils lui répondent, j'appuie sur enregistrer.
Pour moi, le mal social, c'est vraiment qu'une certaine communauté ou une certaine tranche promouvoit ses intérêts, que ce soit matériel ou physique ou psychique, vraiment ça. Et au compte des autres, ça veut dire qu'elle prend la part un peu des autres. Par exemple, il s'est passé vraiment quelque chose de très intéressant dans notre quartier. La ville a décidé de bâtir un terrain de baseball au lieu d'un terrain de soccer. Et parfois, il y a des gens qui vont penser que c'est vraiment quelque chose de normal, c'est une décision de la ville. Moi, je pense que en premier, ce terrain était vraiment un terrain que j'aimais bien et que j'y jouais souvent. Et après, on a transformé ce terrain en quelque chose qui sert pas la plupart des personnes qui y jouent. Pour la plupart, c'est des Maghrébins, d'origine arabe, et qui ont comme principale occupation ou principal vraiment intérêt, c'est le foot, le soccer, le jeu. Et ce terrain, c'était vraiment quelque chose qui les incitait à sortir, à bouger, à respirer de l'air, à se rencontrer.
Elle a raison, comme la plupart des Maghrébins qui habitent dans, en tout cas, mon quartier, c'est Duvernay à Laval. Ils aiment beaucoup plus le foot. Et le gouvernement, c'est sûr qu'ils le savent, ça. Mais ils vont commencer à plus faire plaisir, on va dire, aux, comme on dit, jeunes blancs qui vont commencer à jouer au baseball qu'aux Maghrébins qui vont commencer à jouer au soccer. Parce qu'ils font pas en sorte que les jeunes Maghrébins, justement, avec les terrains de foot, font pas en sorte que, ils vont pas commencer à mettre des terrains de foot. Ils vont pas commencer à montrer leur intérêt envers les jeunes Maghrébins qui habitent dans mon quartier, on va dire.
Moi, ce que je remarque dans ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment un rejet d'une population, il y a un rejet d'une communauté au détriment d'une autre. Et c'est comme ça que moi, j'ai perçu le mal social, c'est plutôt le rejet d'un groupe de personnes ou d'une catégorie de personnes. On rejette les jeunes issus du quartier.
Moi, j'allais au cégep Maisonneuve avant. Et on a vécu quelque chose, je pense que la plupart ont peut-être oublié ou ils n'ont pas trouvé ça si grave que ça. Mais j'étais à la cafétéria, c'était ma deuxième session au cégep avec mon amie, elle s'appelle Noah. On était en train de manger, tranquille. Tu sais, à la cafétéria, quand t'es au cégep, tu fais tes devoirs, tu manges. Et on était peut-être une dizaine de personnes à la cafétéria. Ouh. Et là, la SWAT est arrivée dans la cafétéria. Quand je dis la SWAT, des policiers armés, tout le kit, les gros guns, vraiment comme dans les films. J'avais jamais vu ça en vraie vie. Ils sont venus dans la cafétéria et il y avait, je sais pas si vous avez déjà été à Maisonneuve, vous savez un peu ça ressemble à quoi. Il y a comme des longues tables blanches. Il y avait comme 5 personnes qui étaient là. Ils ont pris un petit noir. C'était un garçon. Ils l'ont juste pris, ils l'ont mis à terre. Ils étaient peut-être 3, 4, 5. Ils mettaient le gun sur lui. Oh, vous êtes en état d'arrestation. Moi, je comprenais pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis ton réflexe, c'est de paniquer. Alors moi, j'essaie de prendre mon téléphone pour pouvoir filmer. J'ai pas réussi à filmer tellement que je tremblais, tellement que je comprenais pas ce qui se passait. Après ça, ils sont venus nous voir pour dire vous devez évacuer. Il y a quelqu'un dans l'école avec un gun. Et j'étais comme, mais oh mon Dieu, ça des affaires qui se passent aux États-Unis, ça arrive pas au Canada. Et dans le fond, ils ont pris ce petit garçon, ils l'ont arrêté, menotté tout le kit. Après, ils ont dit, oh non, c'est pas toi qu'on cherche finalement. Là, ils ont passé tout le ça a peut-être duré 15-20 minutes à chercher la personne dans l'école qui avait un gun, un pistolet. Et moi, j'avais envie d'aller aux toilettes. Alors, je suis allée aux toilettes. Je me suis dit, bon, je vais aller aux toilettes avant. C'est impossible, je vais être dehors pendant je sais pas combien de temps et pas aller aux toilettes. Donc, je suis allée à la salle de bain avec mon ami. On ressort. Il y a des escaliers pour aller vers l'extérieur. 3 ou 4 policiers ont pointé leur arme sur moi. Et j'étais comme, mon Dieu, c'est quoi j'ai fait? Je comprends pas. Ils ont dit, oh, vous devez évacuer, vous devez évacuer. Là, il y a une autre étape encore des policiers qui pointent leur gun sur moi. Et quand ils font ça, c'est, tu comprends pas vraiment, tu sais, ils t'expliquent pas, il y a aucune, comment dire ça?
Ça vient tout seul.
Ça vient tout seul. C'est comme s'ils avaient peur de moi, un peu.
Ouais.
Je comprenais pas pourquoi ils avaient peur de moi. Et moi, mon amie est noire, elle est noire aussi. Fait qu'on était, on est les deux, on se ressemble, on est pareil. Là, on paniquait, on se tenait fort et on est descendu l'escalier jusqu'à temps qu'on sorte dehors. Et là, je vois enfin mon amie qui était à l'intérieur de l'école. Et quand je vais sur elle, je commence à pleurer. Je suis comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer, c'était pour un gars qui a amené un pistolet en jouet. C'était un jouet du Dollarama. C'était pas un vrai gun. C'était pas réel. C'était pas réel. Je pense que c'était pour son jeu de théâtre. Il a amené son gun pour faire sa présentation de théâtre, pour niaiser. Et il y a une Québécoise, selon ce que j'ai entendu, selon les rumeurs, ça, c'est pas
confirmé. Ça veut dire parce qu'il est noir que cette arme...
Tu penses qu'il est noir parce que c'est ça que la SWAT a... Et non, il cherchait un latino.
Wow!
Donc, ils ont même pas eu la description d'une victime. Ils sont direct allés voir la première personne qui est noire.
Ouais.
Parce qu'ils que ça vu. Correspondait à leur image de, ouais. du suspect.
Mm-hmm. Et qu'est-ce qui s'est venu après? C'est qu'ils nous ont envoyé un courriel à l'école pour nous dire si vous avez besoin de voir la psychologue de l'école, venez. Et c'est tout. On n'en a plus jamais reparlé. Même les nouvelles n'ont pas pris ça au sérieux. Je sais pas comment les autres de l'école ont vécu ça, mais moi, je l'ai vraiment mal pris. Moi, je l'ai vraiment, mais vraiment mal pris. J'ai pas compris. J'ai pas accepté.
Bien sûr que c'est normal.
Est-ce que ça t'a affecté sur le long terme?
Ben oui, j'avais peur d'aller à l'école. Puis l'affaire, c'est que pour les autres, c'était peut-être une blague, c'était rigolo, mais moi, mon père, c'était un intervenant. Donc, j'ai compris l'impact de ce qui s'est passé et le fait qu'il n'y a pas eu de reconnaissance au niveau de le trauma qu'on a eu. Et je pense même qu'il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont été traumatisés. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont été traumatisés par cette expérience.
Ce que tu as dit, moi aussi, ça pourrait m'affecter parce que je suis un jeune arabe. Donc, la police peut aussi avoir une image comme ça sur moi. Comme ça pourrait se passer. Et ça peut... Je relate. Genre.
Ouais.
Ça.
Moi, je trouve que ça peut affecter toute personne qui a immigré, qui est une personne immigrante au ouais. Canada. Parce que c'est comme si on était la cible des policiers. Je trouve ça, c'est vraiment pas... C'est une situation tragique, ce qui t'est arrivé. Ouais. Puis, je peux comprendre que ça, tu souffres maintenant. Ben, sur le long terme, t'as souffert. Puis, ouais. C'est très délicat.
C'est comme si tu savais, c'est comme si tu étais en train de penser que cette personne-là, elle a des idées sur toi alors que tu ne la connais même pas.
Mm-hmm.
Par exemple, quand tu marches dans la rue et que, par exemple, avec mon voile, ça attire l'attention, je ressens, c'est comme si cette personne a été injuste envers moi.
Mm-hmm.
Qu'elle n'a pas vraiment vu ce que j'avais comme qualité, ce que j'avais comme point en commun avec elle. Elle avait... vraiment accentué sur mes différences plus que sur ce que on pourrait avoir comme intérêt. Ce que je vois dans le regard des autres, surtout quand je me balade dans des endroits où la communauté maghrébine n'est pas très présente, où ce scénario de voir une femme voilée marcher n'est pas habituel, n'est pas une scène quotidienne, ça me fait vraiment quelque chose, comme si une petite piqûre comme ça. Que tu es différente.
Un malaise.
Oui, un malaise, que tu es différente. Tout le temps, je me dis que je suis fière d'être différente. Être différente, c'est pas forcément un défaut. Mais le fait que ça pourrait, par exemple, changer dans la façon dont on va parler avec moi ou dans la façon dont on va me traiter ou comment on va interagir avec moi, ça pourrait vraiment me faire du mal.
Ouais, mais ça, c'est déjà la représentation qu'il y a au niveau des médias. Mmh. Donc pour les Québécois, c'est grave de porter le voile, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose que, oh, oui. T'as été forcé à porter le voile, c'est sûr que t'as chaud là-dedans, ou tu sais, plein de...
Oui, c'est vrai.
Ouais. C'est pour ça qu'ils le voient comme ça, fait que je pense que la solution, dans tout ce qu'on a discuté, c'est d'avoir des meilleures représentations.
Ouais, comme de ce que t'avais dit, Adriana, le fait que les policiers, ils ont une image de... que ce soit une jeune noire, une jeune arabe, que ce soit eux les principaux suspects, ça revient aussi à ce que je pense, c'est que j'ai comme des amis, des gens que je connais, ils ont toujours comme été rejetés par la société, que ça soit par leur couleur de peau, par leur nationalité, ou tout ce qui a rapport avec ça. Et quand t'es rejeté par la société, tu vas commencer à faire peut-être des, tu vas peut-être commencer à faire des petites conneries et tout ça, tu vas te dire que tu veux faire comme les autres, comme tu veux, un exemple, avoir de l'argent, des trucs comme ça. Et ça pousse du coup à faire des conneries, exactement.
Des bêtises.
Et les jeunes qui sont comme ça, le gouvernement, ils les prennent pas au sérieux. Ils vont pas commencer à faire des ateliers, des styles comme ça. Ils vont juste les jeter en prison, fini pour eux, ils vont pas se préoccuper d'eux.
Je comprends ce que tu veux dire, mais moi je trouve que ils mettent des mesures en place, mais ils les mettent sans suivi. Parce que ça existe pas que plusieurs organismes qui sont là pour aider, on va dire, les jeunes en difficulté, les jeunes qui habitent dans des quartiers défavorisés, mais c'est pas les meilleures solutions. C'est des gens qui ont étudié à l'université, par exemple, et qui ont étudié en santé mentale, qui ont étudié en
sociologie.
Oui, tous ces domaines-là. Et après, ils viennent avec leur théorie que des intervenants, comme mon père, par exemple, ou d'autres organismes communautaires, eux, ils travaillent dans le terrain, ils trouvent des solutions, et eux, ils veulent dire, oh, alors avec ce qu'eux, ils ont découvert, on va faire ça. Mais c'est pas des réelles solutions parce qu'ils sont pas là. Ils sont pas là en train de voir.
Ils sont pas présents sur le terrain.
Exactement.
Ça veut dire, ils ne connaissent pas la réalité de cette tranche d'âge qui est la jeunesse.
Il faut que ce soit des gens qui relate, genre.
Que ce soit des gens comme nous.
Exactement.
J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de policiers qui viennent même pas de Montréal. Ils habitent hyper loin de Montréal, mais ils vont les envoyer ici et ils ont une sorte de peur de nous parce qu'ils sont pas habitués. T'es dans un, on va dire, t'habites à, je sais pas moi, Granby. T'es habitué de voir des gens comme toi. Et là, deux jours au lendemain, t'es à Montréal, tu vois des Arabes, tu vois des Asiatiques, tu vois des Noirs, t'es comme, oh mon Dieu, et t'es un policier. Est-ce que tu vois la problématique?
Le choc.
Comme j'avais dit tout à l'heure, ces jeunes, justement, qui vont faire des conneries, quand t'es adolescent, tu penses à faire des conneries, tu vas pas écouter tes parents, tu vas pas faire ci, pas faire ça.
T'apprends.
Ouais, exactement. Et le gouvernement, eux, ils voient pas ça de cette manière. Ils vont voir que t'es un jeune racisé. Ils vont directement lier ça à ta couleur de peau. Comme ils vont pas mettre les mêmes sentences ou genre ils vont pas commencer à aider.
Les mêmes sentences à qui?
Justement, ça j'allais dire. Soit aux jeunes arabes ou soit on va dire à un blanc. Ils vont se dire un blanc, ils vont dire c'est une erreur. Alors qu'un arabe ou un noir, ils vont lier ça directement à sa couleur de peau ou quelque chose qui va avec ça.
Et pourquoi tu penses que c'est comme ça?
Parce qu'ils font pas des, ils vont plus aider les blancs, ça se voit en faisant des trucs qui vont plus dans d'autres quartiers. Comme ils vont plus commencer à aider les blancs que les jeunes arabes. Ils vont se dire que les jeunes arabes et les jeunes noirs, c'est peine perdue, comme ils vont se dire ça.
Tu veux que je te donne un exemple de ce que tu dis?
Ouais.
Tu vois la parade, il y avait eu un moment les manifestations pour Black Lives Matter.
Ah ouais?
Vous vous rappelez?
Oui.
Bon. Si vous avez vu les dommages qu'il y a eu de cette manifestation, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été détruites. Et j'avais vu dans les nouvelles, il y a des blancs qu'ils ont dit, oh, nous, on est juste venus détruire des affaires. Nous, on est juste venus casser avec des affaires avec des briques pour le plaisir. Là, moi, je sais quand même, pourquoi? C'est une manifestation, c'est quelque chose de sérieux. Et toi, t'es oh non, moi, je suis venu détruire des affaires, là. Moi, je suis venu m'amuser. Quand il dit ça, moi, je suis comme, mais, c'est pas normal. Puis tu sais, c'est quoi la dernière phrase qu'il a dit? Il a dit, de toute façon, mon père, c'est un policier. De toute façon, mon père, c'est le chef de la police. Donc, whatever ce qu'il faisait, ça l'affectait pas. Et, j'ai fait mes recherches par rapport à ça et j'ai appris que quand t'es un blanc bien placé dans la société, tu n'as simplement pas de conséquences par rapport aux autres.
Tu n'as pas à te soucier. Oui, c'est ça. À ce qui va t'arriver après avoir tel fait. Et c'est pour ça, tu réfléchis pas en faisant ce que tu fais.
Tandis que nous, tu fais une erreur. Même, il y a des gens, ils ont même pas fait d'erreur. Ils étaient juste au mauvais endroit, au mauvais moment et ils sont en prison à vie.
Parce que le pouvoir, il est composé peut-être de ces gens-là. Ces gens-là qui sont pour la plupart des blancs, parce que c'est eux peut-être qui ont commencé, on ne sait pas comment, c'est eux qui ont fait ce gouvernement. Enfin, ils sont devenus alors comme le principe. C'est la base sur laquelle on devrait vraiment mesurer tout le monde et comparer tout le monde. C'est ça, c'est la norme, c'est le cadre dans lequel, si tu ne conviens pas à ce cadre, alors ben tu n'es pas normal. Et cela, ben ça peut vraiment causer beaucoup de problèmes.
D'injustice.
Oui, d'injustice.
Il y a des gens du gouvernement.
Qu'est-ce que c'est?
Ils viennent devant nous, puis ils disent, j'ai grandi à Rivière-des-Prairies. J'ai grandi
à Montréal-Nord. J'ai grandi à Anjou. Toi, ils disent, j'ai grandi dans le quartier. Mais ils ont pas grandi dans le quartier. Ils disent, j'ai grandi à Montréal-Nord. Mais ils ont pas grandi sur la Pierre Pascal. Ils disent qu'ils ont grandi dans la Rivière. Mais ils ont pas grandi sur Jacques Rousseau. Ils disent qu'ils ont grandi à Anjou. Mais ils ont pas grandi dans le bloc 6. C'est vraiment comme les endroits où c'est vrai, il y a vraiment des complications d'argent. C'est ce qu'ils ont grandi ici. Mais ils ont pas grandi avec les problèmes.
Que je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pas, j'ai pas vu ça sur Internet ou des trucs comme ça. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux.
Samy.
C'est comme, j'ai plusieurs amis, eux, ils ont fait des conneries et tout. Comme là, j'ai un ami, en ce moment, il est en centre de jeunesse, genre, parce qu'il a fait des conneries. Le gouvernement, ce qu'il lui dit, ben pas le gouvernement en général, mais vous avez compris ce qu'il veut dire, c'est, on te laisse là, à 18 ans, on te sort, tu te débrouilles. C'est les paroles qu'ils lui ont dit. Mais moi, je me dis que ça arrive à lui, ça peut arriver à tout le monde. Si un jour je fais une connerie, peut-être, je sais pas pourquoi, je me dis que ça peut m'arriver. En étant un jeune arabe.
Aussi, être délaissé, se sentir délaissé. Ils savent pas, là. Ben, à Rivière, ok, oui, on a un organisme, mais Rivière, c'est vide. Vide. À Rivière, il y a quelqu'un qui s'appelle Pablo Rodriguez. C'est lui, la personne qui, là, de la conscription. Le gars, on dit, à ce qui paraît, il est venu au BGP une fois. Moi, je l'ai jamais vu, mais on m'a dit, il est venu une fois, genre. Le BGP, c'est là où j'ai grandi. Genre, il est venu une fois, comme, déjà, ils vont jamais comprendre parce qu'ils veulent pas comprendre. Ils vont jamais venir là, puis ils vont jamais essayer de voir c'est quoi les vraies affaires. C'est pour ça que je dis qu'ils pourront jamais nous comprendre parce que, pour le comprendre, faut le vivre, pas juste le voir.
La police, des fois, ça peut être bien, mais il y a aussi des fois où ils se poussent des ailes. C'est-à-dire, ils vont te contrôler dans la rue parce qu'ils en ont envie. Ils vont te faire ci parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le droit de faire ça. Ouais. Je marchais avec un ami, genre, quand même proche de chez moi. Là, je marchais avec un noir, pour être plus précis. On était juste en marché dans la rue, comme on marchait dans le trottoir et tout, on n'a rien fait littéralement. Là, t'as une voiture de police, elle vient, elle freine, genre, comme si elle a vu quelque chose. Elle baisse les fenêtres, elle dit, arrêtez-vous, on s'arrête, comme on coopère, genre. Là, ils nous disent de nous identifier. C'est pas on dit non, on s'identifie pas, on dit juste, pourquoi vous voulez qu'on s'identifie, pourquoi, genre, on insiste sur le pourquoi, c'est normal. Comme, ils vont pas nous demander d'identifier parce qu'ils ont envie, ils ont pas le droit. On disait pourquoi, à la fin, on a juste lassé l'affaire, on s'est juste identifié. Ils ont dit que, ils voulaient pas dire pourquoi, ils ont dit, d'abord, ils ont identifié, après, ils ont dit qu'il y avait un groupe de 4 jeunes qui marchaient armés. À la fin, on a appris que les 4 jeunes, c'était des blancs. Et ils le savaient. Comme genre, après, on a vu, comme genre, les jeunes recherchés, c'était dans la description, c'était écrit leur nom, littéralement. Il y avait pas de noir, il y avait pas d'arabe, ils le savent très bien.
Les médias font que montrer, genre, le côté mauvais des quartiers et le gouvernement fait comme si que ce qu'on vivait n'existait pas. Ça m'énerve. Genre, ils agissent comme si ce qui se passe dans le quartier, dans les quartiers, c'était pas vrai, là. Il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de complications. C'est comme s'ils agissaient comme s'il n'y avait rien. Puis les médias, ils disent, oh, c'est violent.
J'avais de la colère sur le moment. J'avais de la colère que je maîtrisais, comme je commençais pas à parler mal non plus et tout. Mais comme ça se voyait, les policiers, on dirait, ils voulaient juste me faire chier, genre. Ils savaient que j'étais en colère. Donc, ils poussaient encore plus. Ils disaient, qu'est-ce que tu fais à marcher dans les rues? Alors qu'il était à peine 18h. Qu'est-ce que tu fais à marcher dans les rues à 18h? Comme si c'était criminel. Ça sentait que j'avais de la colère. I'm about to rap about... I'm losing my train of thought. Like, what was I thinking? What was I? I'm losing my train of thought. Like, what was I thinking? What was I? Yo, this ass my abs contract. I give you abstract raps. That's bound to get you lifted. First listen, you may catch contact and feel something. Put some pads on and drill something. Kill something. Or you may hold back. You still fronting on your future. Just a different breed of MC. Trying to taste all kinds of different cheese. Like Remy, you see these pics on off of little kids. Or Disney, they meant to open eyes and show you vids. That's in me, Cerebro. Mad villain, but they paint me hero. Coke lines, they make for heavy bars, yeah, they kilos. And I find that deep in every star, there is zero room for anything but energy, excluding ego. Now I'm. What was I
was I thinking? What was I? I'm losing my train of thought. Like, what was I thinking? What was I?
Nous, notre mal social, c'est le fait qu'on doit en avoir un. Tu comprends ce que
ouais,
je veux dire?
C'est
le fait qu'on est là en train de discuter de tous nos. Les conséquences qu'on a d'être une personne de couleur au Québec.
À suivre.
C'est ça notre mal social. Ça suffit là. Laissez-nous vivre.
Patou Montréal est une série de podcasts produite par l'École Converse en collaboration avec La Puce à l'Oreille. Cet épisode a été réalisé, monté et mixé par Emmanuel Moussa. Ce projet est financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ainsi que par la Ville de Montréal.